Historama, l'histoire d'un jour, aujourd'hui le 16 août 1893, le massacre des Italiens à Aigues-Mortes. Le 18 août 1893, les Français découvrent à la lecture de la presse qu'une bagarre sanglante s'est déroulée aux salines d'Aigues-Mortes. Des ouvriers italiens ont agressé sauvagement des Français qui ont riposté. La rixe fait une dizaine de victimes dans les deux camps. Le même jour, les lecteurs italiens apprennent que 150 compatriotes ont été massacrés dans le Gard sous le regard de gendarmes français restés passifs. Des émeutes éclatent dans les principales villes de la péninsule. À Rome, le palais Farnèse, siège de l'ambassade de France, est assailli. L'opinion internationale prend parti pour l'Italie. La polémique fait rage. Certains croient même en l'hypothèse d'un conflit armé entre les deux pays alpins. La paix est finalement préservée au détriment de la mémoire. Les conditions de travail dans les salines sont effroyables. La récolte du sel s'opère l'été sous un soleil de plomb. Les travailleurs saisonniers sont nombreux. Depuis les années 1880, la Compagnie des Salins du Midi recrute des ouvriers italiens en provenance du Piémont et de la Toscane pour compenser l'affaiblissement de la main-d'œuvre cévenole. Ces travailleurs transalpins donnent satisfaction. Ils atteignent des rendements exceptionnels. En 1893, la crise économique provoque une hausse du chômage. Des Français cherchent à se faire embaucher. Le 8 août, le Parlement adopte une loi relative à la protection du travail national. Les chefs d'entreprise reçoivent une circulaire incitant à embaucher en priorité des nationaux. Cependant, sur les 1300 ouvriers recrutés dans les salines du Gard, environ 700 sont italiens. Il y a aussi quelques trimards des travailleurs qui errent à travers la France en quête d'une embauche. Ils ont mauvaise réputation. La population locale les considère comme des vagabonds. Au matin du 16 août, les saisonniers sont transportés en barque vers les salins d'Aigues-Mortes. Ils y séjournent deux semaines, logés dans des cabanes, dormant sur de la paille à même le sol. Les trimards sont incapables d'accomplir le pénible labeur qu'il aurait demandé. Ils cherchent à casser le rythme des piémontais. Une bagarre éclate, les transalpins chassent les trimards du chantier, il y a quelques blessés légers. Les survivants calment les belligérants humiliés. Les trimards se précipitent à Aigues-Mortes et répandent le bruit que les Italiens ont tué des habitants. Dans la soirée du 16 août, ils sont plusieurs centaines à traquer les Italiens. Une vingtaine de douaniers et de gendarmes évitent un prévisible lynchage. Le maire alerte le procureur de la République et le préfet du Gard qui arrivent à Aigues-Mortes au petit matin. Dans la matinée du 17 août, les trimards se rendent dans les marais salins pour punir les Italiens, que les gendarmes tentent de diriger vers la gare pour les protéger. Le convoi est harcelé, les insultes, les jets de pierre et les coups de bâton pleuvent. Dans Aigues-Mortes, le tambour municipal parcourt les rues en criant « La chasse à l'ours est ouverte ». Plusieurs ouvriers italiens sont exécutés à coups de fusil, d'autres sont précipités dans le canal et meurent asphyxiés. Certains sont lapidés ou bastonnés. Les habitants encouragent les émeutiers depuis leurs fenêtres. Pour mettre fin au massacre, le maire placarde une affiche annonçant que la Compagnie des Salins du Midi a procédé au licenciement de tous les Italiens. Les 7 cadavres retrouvés au soir du 17 août sont inhumés la nuit suivante, sans cérémonie, de peur d'une nouvelle émeute. le rapport officiel des autorités italiennes mentionne 8 morts, 14 disparus et une centaine de blessés. Nous retrouvons Historama dans un instant pour la chronique littéraire, un jour trois livres, mais d'ici là, une pause musicale avec Brigitte Bardot. Nous écoutons l'un de ses plus grands titres, La Madrague.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton, et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine, tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le mistral va s'habituer à courir sans les voiliers, et c'est dans ma chevelure ébouriffée il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin, croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne, je le garderai comme un ami. Mais au premier jour d'été, tous les ennuis oubliés, nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, c'est le moment de la chronique littéraire, un jour trois livres. Je commence par un ouvrage lié aux religions, connaître et comprendre le judaïsme, le christianisme et l'islam, c'est signé Isabelle Lévy aux éditions du Passeur. En près de 200 questions, Isabelle Lévy présente les trois grandes religions monothéistes. Elle s'exprime avec clarté et précision, elle aborde successivement les croyances, les cultes, les fêtes, l'hygiène et la pureté corporelle, l'alimentation, la vie du couple, l'enfance et l'adolescence, et enfin la maladie et la mort. À travers ces thématiques, elle envisage des sujets variés comme le gospel, la bûche de Noël, la crèche, le jeûne de Kippour, l'importance de la chevelure, le plaisir sexuel, l'accouchement, la circoncision, les funérailles, le paradis et l'enfer. L'auteur relève les similitudes et les valeurs communes au judaïsme, au christianisme et à l'islam. Elle note également les différences entre ces trois religions. C'est un ouvrage solide et rigoureux qui repose sur une documentation étayée. Il constitue une remarquable introduction à la connaissance du fait religieux dans nos sociétés occidentales. Connaître et comprendre le judaïsme, le christianisme et l'islam, d'Isabelle Lévy, c'est aux éditions Le Passeur. Napoléon, dictionnaire historique de Thierry Lenz, aux éditions Perrin. Directeur de la Fondation Napoléon et professeur à l'Institut catholique d'études supérieures, Thierry Lenz propose un monumental dictionnaire historique consacré à son sujet de prédilection, Napoléon. Le personnage est ici envisagé dans la continuité de son existence et la globalité de son parcours politique et militaire. En quelques 300 notices et près de 1000 pages, l'auteur explore la vaste thématique napoléonienne. Dédié à Jean Tullard, autre grand connaisseur de l'empereur, ce dictionnaire s'ouvre sur la première abdication à Fontainebleau le 11 avril 1814. Il se referme sur le royaume de Westphalie, créé au lendemain des traités de Tilsit des 7 et 9 juillet 1807 et confié à Jérôme Bonaparte, le plus jeune de la fratrie. Il présente une remarquable cartographie élaborée par Jean-Pierre Pirat. Dans cette somme encyclopédique que je vous recommande chaudement, Thierry Lenz témoigne de sa profonde érudition. C'est un ouvrage indispensable à toute bibliothèque historique. Napoléon, dictionnaire historique de Thierry Lenz aux éditions Perrin. Je termine cette chronique par une invitation au voyage en ces périodes de confinement. C'est une joie que l'on peut se permettre à travers l'expression radiophonique. Biélorussie, Dreamland de Nicolas Righetti s'est publié aux éditions Fabre. J'aurais dû recevoir l'auteur dans mon émission Passé-Présent au printemps dernier, mais les aléas du confinement ont empêché cet entretien. Soumis depuis bientôt 3 décennies à la dictature d'Alexandre Loukachenko, la Biélorussie ou Bélarus est un pays de près de 10 millions d'habitants situé entre la Russie, l'Ukraine, la Pologne et les Pays-Baltes. Il est souvent méconnu. Nicolas Righetti nous propose de le découvrir à travers son regard de photographe. Centré sur Minsk, la capitale, ce beau livre permet d'apprécier la monumentalité de l'architecture stalinienne qui se conjugue à l'expression d'une certaine modernité, parfois même futuriste, et le quotidien de la population. La nostalgie de la période soviétique est nettement perceptible. Le matériel militaire et les uniformes sont souvent évoqués. C'est un voyage hors du temps. La préface de Patrick Besson est éclairante. Voilà une idée originale de cadeau pour les fêtes de fin d'année. Biélorussie, Dreamland, c'est signé Nicolas Righetti et c'est publié aux éditions Fabre. Ainsi s'achève cette émission Historama. Merci à Lucas qui l'a réalisée. Nous nous séparons en chanson avec toujours Brigitte Bardot et Serge Gainsbourg pour le fameux Bonnie and Clyde.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il a vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est
Bonnie.
À eux deux, ils forment le gang Barrow.
Parker
et Clyde Barrow.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit.
Il faut croire que c'est la société qui m'a défini. Abîmé.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi?
On prétend que nous tuons de sang-froid.
C'est pas drôle, mais on est bien obligé
de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Chaque fois qu'un policeman se fait buter,
qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer,
pour la police ça ne fait pas de mystère.
C'est signé
Clyde Barrow,
Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger,
de s'installer tranquille dans un meublé,
dans les trois jours, voilà le tac tac tac,
des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Un de ces quatre, nous tomberons ensemble. Moi je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble.
Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi Bonnie je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
De toute façon, il ne pouvait plus s'en sortir.
La seule solution, c'était mourir.
Mais plus d'un les a suivis en enfer.
Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.